Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice avec Sacha Bourgeois, Gironde, économiste, et Pierre Brunet, juriste. En mars 2017, le Parlement néo-zélandais adoptait une loi reconnaissant la personnalité juridique du fleuve Whanganui. Quelques jours plus tard, la Cour suprême d'un État du nord de l'Inde, l'Uttarakhand, déclarait le Gange et le fleuve Yamuna comme des personnes juridiques vivantes, c'est ça son expression, et encore quelques jours après, la même Cour accordait le même statut aux glaciers auxquels les deux fleuves prenaient leur source. Et donc, je vous propose ce soir de nous arrêter pour traiter de cette question, de cette innovation juridique. Peut-on accorder à un fleuve le statut de personne juridique? Et pour en discuter, j'ai donc réuni Sacha Bourgeois-Gironde, qui est professeur d'économie comportementale à l'Université de Paris 2, qui est chercheur en sciences cognitives à l'Institut Jean Nicot, à l'École normale supérieure, qui est également professeur associé à l'Université hébraïque de Jérusalem, et qui vient de publier un ouvrage au PUF intitulé « Être la rivière ». Porte précisément sur ce sujet. Et pour en débattre avec lui, Pierre Brunet. Pierre Brunet est professeur de droit public à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l'auteur de nombreux articles, notamment sur ce sujet, et il a publié parmi eux, notamment celui-ci, « Vouloir pour la nature, la représentation juridique des entités naturelles » dans le Journal of Interdisciplinary History of Ideas. Je le prononce avec un accent français, mais en fait, c'est une revue italienne, comme son nom l'indique. Alors, commençons par les faits. Comme juriste, il faut commencer comme ça. Alors, Pierre Brunet, que s'est-il passé en Nouvelle-Zélande en 2017?
Eh bien, il s'est passé que, dans un premier temps, le Parlement de Nouvelle-Zélande a annoncé qu'ils allaient adopter une loi consacrant la personnalité juridique du fameux fleuve Whanganui, de la rivière Whanganui, je crois.
Ah oui, on va y revenir, parce que est-ce que c'est masculin, féminin,
tout ça? À partir de maintenant, nous allons peut-être la féminiser, comme Sacha Bourgeois-Gironde le fait dans son ouvrage. Et j'insiste sur le fait que, dans un premier temps, ça a été annoncé. C'est-à-dire que la seule annonce de la loi a provoqué à elle seule une sorte de tsunami médiatique. Pour vous donner une petite anecdote, j'étais à l'époque en Japon, je faisais un cours qui s'était terminé, c'était un vendredi, je reçois l'annonce sur mon téléphone portable par le Guardian, qui envoie une annonce que le Parlement va voter la loi sur le Whanganui. Je sortais d'un cours où j'avais parlé du cas, parce que jusque-là, ce fleuve était en effet en voie de devenir une personne, on le savait que ça allait arriver, mais le fleuve était régi par des accords, des agreements passés entre le gouvernement de Nouvelle-Zélande et les tribus maoris qui habitent le long de ce fleuve. Et le conflit est très ancien, comme l'explique très très bien Sacha Bourgeois-Gironde dans son ouvrage. Tout remonte au fameux traité de Waitangi, qui est effectivement très connu à la fois des historiens de la Nouvelle-Zélande, mais aussi des anthropologues qui travaillent beaucoup sur les peuples autochtones.
Sacha Bourgeois-Gironde, alors ce traité, on est en 1840.
Oui, c'est ça.
Tout à fait au début de la colonisation de la Nouvelle-Zélande.
Alors ce traité, effectivement, a un statut ambigu à plus d'un titre. D'abord, c'est un traité, mais donc il n'est pas censé avoir une force de loi. Je m'abrite derrière les juristes internes, mais il règle quand même la vie politique intérieure de la Nouvelle-Zélande depuis les origines, enfin depuis ces années-là. Il est écrit en deux langues, en anglais et en Tereo Maori. Alors je me suis beaucoup penché sur, avec l'aide de linguistes et de locuteurs de cette langue, du Maori.
Parce que vous ne parlez pas la langue Maori.
Non, quelques expressions que j'ai dû apprendre, parce qu'il faut quand même essayer de comprendre aussi ce qui se passe.
C'est capital. Capital, oui. Et notamment pour interpréter les textes juridiques, on y reviendra.
C'est très important, cette diglossie juridique est extrêmement importante parce que ça ne dit pas la même chose. Ces textes ne disent pas la même chose. Par exemple, le concept de souveraineté qui est central au moment du traité de Waitangi est traduit par un concept Rotorianga en maori qui ne veut pas dire ça, qui recouvre pas le concept de souveraineté, que ce soit dans la loi britannique ou dans la loi occidentale en général. Donc c'est mal compris, c'est ambigu. La traduction maori est une traduction de pasteur, de missionnaire, en fait, qui n'est pas du vrai maori, qui n'est pas du maori parlé. Donc, les tribus qui sont présentes au moment de la signature en 1840 ne comprennent pas que ça va être signé et qu'à partir de là, on ne discutera plus.
C'est ça. Et puis que c'est un acte de colonisation. C'est qu'en réalité, c'est un pouvoir étranger qui s'installe sur leur terre.
Alors, c'est un acte de colonisation et à la fois, c'est un acte de colonisation demandé par les Maoris à ce moment-là.
Oui, pour échapper aux Français.
Pour échapper à des actions de violence, de brutalité de certains marins ou de certains commerçants français qui s'installent en Nouvelle-Zélande à ce moment-là et qui sont en rivalité avec les Britanniques aussi.
C'est ça. Alors, on est dans un contexte, et si on ne connaît pas cette longue histoire, Pierre Brunet, douloureuse, et avec d'ailleurs, il faut le dire, des groupes ethniques maoris, plusieurs groupes ethniques, particulièrement actifs et qui vont d'ailleurs dans beaucoup de domaines, pas uniquement en Nouvelle-Zélande, mais bien d'ailleurs, qui vont être très soucieux de faire respecter leurs droits. Et dans ce sens-là, ils ont beaucoup œuvré. Donc, il y a un vieux contentieux entre la couronne et les Maoris. Et on ne peut pas comprendre ce statut accordé à la rivière Whanganui si on ne revient pas un petit peu en arrière.
Oui, parce que alors je suis pas un spécialiste de l'histoire hein, de cette période, mais le fait est que quand on travaille sur le sujet, on est un peu obligé de remonter. Il y a eu en fait, le conflit en fait ne va jamais véritablement trouver de solution. La couronne anglaise trouvera un moyen toujours de contraindre en fait les Maoris à ses propres règles, mais dans les années 90, si je ne me trompe pas. Il y a un
acte de repentance,
c'est
majeur.
Comme... Et on met en place un tribunal qui va commencer à, effectivement, en fait, tenter de quelque sorte de construire une forme de réconciliation, surtout en faisant en sorte de, que certains litiges anciens soient tranchés et en essayant de rétablir les choses en faveur des Maoris. Par ailleurs, je me permets juste d'ajouter un autre élément très contemporain, cette fois-ci contemporain de notre époque, c'est que en plus d'avoir annoncé la loi, le gouvernement avait aussi annoncé que cette loi allait donner lieu à la mobilisation d'une très grosse somme d'argent au profit des tribus maoris. Et donc, cette loi, certes, on va y revenir beaucoup, consacre la personnalité juridique de la rivière, mais elle s'inscrit dans un processus qu'on a pu connaître, qui a pris d'autres formes dans d'autres pays, qui est aussi tout simplement un processus de réconciliation et de reconnaissance de la culture maori. La Nouvelle-Zélande est un pays qui s'affirme comme biculturel.
Oui, c'est ça.
Je ne veux pas développer, il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent à quel point, si vous voulez, ce biculturalisme existe en permanence. Si vous êtes enseignant en Nouvelle-Zélande, il est hors de question de vous asseoir sur une table devant vos étudiants, parce que pour un maori, s'asseoir sur une table, c'est quelque chose d'inadmissible.
Mais alors, ce qui est intéressant, Sacha Bourgeois-Gironde, c'est que précisément, cette réconciliation, le fait d'assumer le biculturalisme, va passer notamment, peut-être surtout, par le statut de cette rivière qui constitue un symbole, on dirait, un point de fixation de la reconnaissance de l'identité maori.
Alors c'est effectivement probablement le cas le plus spectaculaire, comme le disait Pierre Brunet à l'instant, de ce qu'a produit le tribunal de Waitangi. Alors à partir de l'année 1975, mais effectivement très actif dans les années 1990, il y a eu à ce moment-là un plus grand accent sur la repentance ou sur ce genre d'attitude collective. En réalité, c'est ambigu parce que d'abord les Maoris ne considèrent pas que c'est un acte de réparation. En fait, ils veulent pas entendre parler de notamment des fonds qui sont mis à disposition de la rivière Whanganui comme faisant partie de réparation. Quand j'en ai parlé au Parlement de Nouvelle-Zélande avec un des députés Maoris qui avait contribué à la loi, Adrian Rurawe, il a énormément insisté sur le fait qu'il faut parler de redress, qui est très difficile à traduire en français, d'ailleurs.
De restitution, de remède.
De remède. Mm-hmm. De remettre dans un certain état la rivière, pas forcément dans un certain état physique, mais de remettre la rivière possiblement dans un état où elle pourrait être si elle était gérée différemment, si elle avait un statut différent devant la loi. Et pas un acte de réparation. C'est-à-dire qu'on ne paye pas une compensation financière par rapport au tort historique qui aurait été fait aux Maoris.
Et c'est toute la force, Pierre Brunet.
Oui, absolument. C'est ça qui... Là, c'est vraiment très très bien expliqué dans le livre. Ce qui est très bien expliqué, d'ailleurs, c'est cette interpénétration du passé et du présent, du fait qu'on n'est pas dans un processus de réparation, de compensation des préjudices. On n'indemnise pas des préjudices subis par des personnes. On met en place un système de management de la rivière. C'est d'ailleurs ainsi que nos collègues de Nouvelle-Zélande ou d'Australie qui travaillent sur le sujet, qui sont d'ailleurs souvent des économistes et des juristes. Je ne sais pas si vous les avez rencontrés, mais je pense à notamment Erin O'Donnell et Elizabeth MacPherson, qui ont parfaitement montré qu'il y a un processus d'organisation de cette rivière, qui d'ailleurs, je me souviens d'une discussion, qui peut-être même a une valeur constitutionnelle. Certains juristes de Nouvelle-Zélande ont écrit, ont proposé de concevoir cette loi finalement comme un élément constitutionnel.
Absolument. Oui, Sacha Bourgeois-Gironde. Oui, vous appuyez d'ailleurs sur l'article de Jeremy Waldron qui est très intéressant parce qu'il montre que la difficulté, et une fois de plus, la Nouvelle-Zélande va être un laboratoire à cet égard. La difficulté, lui-même qui est néo-zélandais, hein, Waldron, la difficulté de réparer un préjudice aussi ancien. Et donc, pour laquelle l'histoire a transformé tout. Il y a des territoires sacrés sur lesquels on a construit des aéroports, des hôpitaux. On va pas détruire les pistes d'aviation et puis ça serait tout à fait contre-productif. Donc, il y a cette magie, en quelque sorte, de la consécration du statut juridique de la rivière qui consiste à réparer sans passer par une histoire contrefactuelle.
Absolument. On est dans ce cas-là où on veut donner, comme je le disais tout à l'heure, on veut donner aux nouveaux gardiens de la rivière, les moyens de contribuer pour le futur à son bien-être. C'est-à-dire, en fait, on donne des moyens pour le futur plus qu'on regarde vers le passé, en certaine manière. C'est un processus de réconciliation postcoloniale, c'est assez clair, mais il n'est pas hanté par la question des réparations.
Il excède la réparation. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a différents contextes, et on va terminer ce tour d'horizon avec vous, Pierre Brunet, pour montrer, pour dire que l'attribution de la personnalité juridique à la rivière n'est pas isolée dans le monde. Il y a eu l'arrêt indien, on vient d'en parler un mot, peut-être, sur l'arrêt de la Cour suprême.
Justement, il y a une coïncidence qui est parfaitement évidente. Ce sont deux juges qui ont rédigé la décision de la cour, de la haute cour de l'Uttarakhand, rédigent, je pense, à toute vitesse, une première décision consacrant...
Vous êtes un peu sévère avec eux, d'ailleurs.
Longue discussion avec Marie-Angèle Hermite, dont il faudra citer le nom ici, parce qu'elle est évidemment
pionnière
sur le sujet en France. Ce qui est très frappant, c'est qu'ils rendent deux décisions coup sur coup, comme vous l'avez très bien dit. Une première le 20 mars, une deuxième le 30 mars. La première est assez brève, elle fait une dizaine de pages. Ils recopient en fait très largement des volumes de jurisprudence d'un juge Salmon qui est très connu et d'un juriste Salmon. Et ils rendent cette décision quasiment quelques jours après l'annonce faite par le néo-zélandais. Et il consacre donc la personnalité juridique du Gange et de... Alors je crois qu'on dit la Yamuna, mais je n'ai pas de doctrine sur le sujet. Et puis, en effet, comme vous l'avez très bien dit, 10 jours plus tard, deuxième décision, beaucoup plus longue, qui fait 90 pages, quelque chose comme ça, et qui est alors pas du tout rédigé de la même façon, pas du tout construit de la même façon, et dans laquelle il consacre la personnalité des écosystèmes, donc des glaciers, mais plus que des glaciers, de tous les ruisselets, de tout ce qui entoure en fait les fleuves, Yamuna et Gange.
Qui
ce sont des fleuves qui font plusieurs milliers de kilomètres voilà. De long.
Il n'y a aucune commune mesure. Pas,
non, la Wanganui fait 280
km de long. C'est pas la même chose.
Oui, le Gange est un des fleuves les plus longs du monde. Ouais. Il n'y a aucune commune mesure entre ouais, les deux ça. Décisions. Les argumentations ne sont quand même, à mon sens, pas du tout les mêmes, mais je ne veux pas développer. Par ailleurs, ce qui est fascinant, c'est qu'en même temps qu'on apprend que les Indiens, donc les juges indiens, consacrent ces fleuves comme personnes juridiques, on apprend que l'Atrato en Colombie, dans le Choco oui. colombien, a été effectivement lui-même transformé en personne juridique en 2016 par la Cour constitutionnelle colombienne qui rend sa décision publique en même temps que, enfin une fois que les Néo-Zélandais ont rendu la décision.
Une véritable globalisation des décisions juridiques ou parlementaires.
C'est une séquence en 2017 assez incroyable, à quelques jours près, c'est à ça. Quelques mois près. Qui d'ailleurs depuis ne s'est pas reproduite.
Mais alors Sacha Bourgeois-Gironde, justement, vous commencez.
Oui, c'est en cours.
C'est en cours.
Je vous interromps deux secondes. En fait, le processus aujourd'hui est quasiment lancé. C'est-à-dire que en Colombie notamment, vous avez un très grand nombre de rivières qui ont été qualifiées de personnes juridiques.
Oui, de façon plus globale.
De façon plus globale.
Oui.
Et aujourd'hui, on sait qu'il y a maintenant un mouvement, alors on y reviendra, oui. Un mouvement qui, alors, évidemment, existe aussi en France et en Europe en général.
Y compris en France.
Oui, y compris en France.
Sur la Seine et sur le Rhône. Notamment.
Et sur la Loire. Il y a un Parlement de la Loire.
Il y a un Parlement de la Loire. Pierre
Brunet. Malheureusement, je suis un peu dépourvu de d'informations, mais il s'est réuni et a commencé à se réunir un Parlement de la Loire, dans l'esprit, à mon sens, mais je me trompe peut-être, du Parlement des choses proposé par Bruno Latour en 1980, dans les années 90, et qui donc est censé réunir, si je ne me trompe pas, des personnalités qui ont un intérêt au fleuve, mais aussi en fait des scientifiques de diverses disciplines, aussi bien des scientifiques des sciences dites dures que des sciences humaines ou sociales, et qui ont vocation à en quelque sorte prendre en charge l'intérêt de la Loire en tant que tel. Alors, et le courant, en effet, pardon. Le mouvement, si vous voulez, de personnification des fleuves est très largement, à mon avis, enclenché.
Alors, Sacha Bourgeois-Gironde, vous commencez votre livre en disant qu'il s'agit d'un événement juridique et philosophique majeur.
Oui, d'abord parce que je suis philosophe de formation et je me considère toujours philosophe, malgré tout. J'ai été professeur en philosophie avant de l'être en économie. Et je pense que le décentrement ontologique qui s'opère quand on accorde des droits à la nature, des droits subjectifs à la nature, c'est-à-dire que la nature devient, ou du moins une entité naturelle, ou la nature dans son ensemble devient sujet de droit, et donc sujet de devoir aussi, a priori.
Ah oui, mais ça,
très compliqué.
Ben c'est très compliqué. Comment une rivière peut-elle honorer un devoir?
Alors, le régime de responsabilité de la rivière, je n'ai pas réussi à le percer. C'est un nouvel ordre.
C'est un obstacle majeur.
C'est un obstacle extrêmement compliqué. Peut-être beaucoup plus difficile encore philosophiquement, puisque vous m'interrogez sur l'aspect philosophique, que le fait d'être sujet de droit. Sujet de droit, ça peut encore se concevoir, plus ou moins.
Tout à fait.
Mais ce décentrement, ce que j'appelle ce décentrement ontologique, c'est ce qui a motivé, effectivement, l'origine de mon travail.
Pierre Brunet, est-ce que ce décentrement ontologique, c'est pas ce que vous appelez une logique écocentrique?
Si, très clairement. Il y a une volonté de la part notamment des juges qui ont pris exemple aussi bien sur la Nouvelle-Zélande, parce que les juges indiens ont pris connaissance du système qui était mis en place par la Nouvelle-Zélande, mais les juges colombiens connaissaient les accords qui étaient passés en Nouvelle-Zélande. Par ailleurs, un parc est également devenu une personne juridique en Nouvelle-Zélande. Et donc, effectivement, dans la décision colombienne, c'est tout à fait clair. C'est une décision qui fait 200 pages. Le contenu même de la décision est un peu moins long, mais c'est magnifique à lire comme décision. C'est vraiment une décision splendide dans laquelle les juges reconstruisent leur propre jurisprudence, justement pour montrer à quel point l'écocentrisme figurerait et peut figurer dans la constitution colombienne, et il nous donne quasiment une leçon d'éthique environnementale.
Oui, mais alors, Sacha Bourgeois-Gironde, la difficulté, c'est que quand on dit, là, à Paris, les fleuves, un fleuve à la personnalité juridique, bon, nous, on s'imagine tous un fleuve, la Loire, le Rhône, etc. Mais en réalité, il s'agit d'un ensemble d'un ensemble culturel. Il s'agit plutôt, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, d'un rapport au fleuve que de la matérialité du fleuve. C'est la matérialité plus le rapport.
C'est la matérialité et le rapport. C'est-à-dire, voilà. Ça, évidemment, cette décision du Parlement entérine une culture, évidemment.
Il y a cet aspect culturel et communautaire. Bien sûr.
Qui prédomine. Alors, c'est vrai que je suis au courant, j'ai commencé à discuter avec des associations en Europe, ou des personnes en Europe, y compris des juristes d'ailleurs, qui travaillent sur la personnification juridique des fleuves européens, ce qu'on a cité tout à l'heure. C'est pas une objection que je fais, c'est au contraire quelque chose qui m'intéresse, d'autant plus que c'est difficile à concevoir, c'est quelle communauté va porter ça.
C'est cela. Et puis, qui va parler? Parce que, en même temps, Pierre Brunet, en même temps qu'on reconnaît ce bloc culturel, on pourrait dire des droits bioculturels, d'ailleurs l'expression existe dans le droit.
Absolument, elle a été proposée par un juriste britannique, sauf erreur, d'origine indienne, qui s'appelle Sanjay Bavikate, dans un ouvrage qui s'appelle Stewarding the Earth, mais il avait déjà fait quelques articles auparavant, et il propose en effet le concept de droit bioculturel afin de permettre à la fois à des peuples autochtones, mais à des communautés locales, et c'est important pour le cas colombien notamment, de se voir reconnaître, en fait, alors non pas une propriété au sens occidental du terme, mais là on rentre déjà dans la très grande difficulté du sujet qui nous anime, mais de reconnaître une forme de possession, de souveraineté, de droit à un territoire avec tout ce que ce territoire signifie pour eux.
C'est ça.
Et donc chargé de cette, on pourrait dire, de cette métaphysique pour reprendre le cas néo-zélandais.
C'est ça. On peut pas parler de droit de propriété parce que vous insistez beaucoup, Sacha Bourgeois-Gironde, là-dessus. C'est que finalement, c'est la reconnaissance que la rivière se possède elle-même.
C'est une interprétation. En fait, le texte ne dit pas que la rivière se possède elle-même.
Mais c'est vous,
mon interprétation. C'est une extension d'interprétation de ce qui se passe dans le texte. À partir du moment où la couronne est dépossédée, c'est plus un domaine public sur les parties qui relevaient de la couronne. Ça reste sous le régime de propriété privée pour les parties qui étaient déjà encadrées par des droits de propriété privée. Donc déjà, le régime de propriété le long de la rivière est extrêmement complexe. Mais pour la partie qui était dévolue à la couronne auparavant, j'ose interpréter les choses en disant qu'il y a une autopossession de la rivière.
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
esprit de justice qui se trouve toujours autour de la rivière Whanganui avec Pierre Brunet et Sacha Bourgeois-Gironde qui a choisi de nous faire entendre alors plusieurs choses. Expliquez-nous.
Oui. Deux choses, effectivement, nous venons d'entendre. La première, c'est le cri du ouïa. Qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau.
Mais qui n'existe plus.
Non, depuis 1907, il est complètement éteint.
Et comment on a pu reconstituer son chant?
Eh bien, parce que M. Hanama, un Maori, la radio néo-zélandaise lui a demandé de reproduire le chant qu'il avait entendu dans son enfance, en fait.
Et il s'en est souvenu.
Et il s'en est souvenu et on a entendu sa voix, en fait, en 1948, dans les studios de la radio néo-zélandaise. Cet oiseau qui avait été éteint. Notamment par les Maoris eux-mêmes, en fait. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une première colonisation Maori de la Nouvelle-Zélande qui a aussi atteint la nature, qui a fait éteindre certaines espèces. La plus célèbre, c'est cet oiseau gigantesque qu'on appelait le moa, mais aussi qui a déforesté pour 50% de la Nouvelle-Zélande et qui a fait perdre cet oiseau parce que les plumes étaient extrêmement précieuses dans la vie Maori.
C'est ça. Alors, on est en plein dans la complexité de ce rapport maori au fleuve et nous butions sur la difficulté de dire mais comment est-ce qu'un fleuve va pouvoir parler, va pouvoir exprimer des revendications. Il faut donc bien passer par des hommes, Pierre Brunet.
Absolument. C'est effectivement une objection, mais comme l'a plusieurs fois écrit Marie-Angèle Hermite dans son magnifique article de 2011 publié aux Annales La Nature.
Véritablement fondateur, on peut le dire.
Oui, fondateur. C'est un article qui, voilà, il est absolument incontournable. Et mais il n'y a pas que cet article-là. Hein, à dire vrai, j'espère qu'un jour il y aura une anthologie un recueil des travaux de Marie-Angèle Hermite. Effectivement, c'est. C'est un problème sans en être un, au sens où on peut, encore une fois, il faut tout de suite préciser une chose. Quand on parle de la personne juridique d'un fleuve, il y a plusieurs façons d'en parler, mais on peut parfaitement considérer que cette personnalité n'a rien à voir avec la personnalité juridique humaine. Il existe, chez les juristes, un concept de personnalité qui peut être considéré comme un concept technique. C'est d'ailleurs celui-ci que propose Jean-Pierre Marguenot depuis très longtemps pour profit des animaux. Oui. Et il s'agit simplement, à ce moment-là, de protéger, d'établir le statut juridique d'une entité naturelle ou non humaine à travers l'idée que cette entité a des droits qui peuvent très bien ne pas aller avec des devoirs. Et encore une fois, l'association des droits et des devoirs est certes une association que l'on fait toujours pour la personne humaine, mais que l'on ne fait pas systématiquement pour d'autres personnes. Et par ailleurs, les droits qui seront conférés à cette entité seront les droits de cette entité, mais pas forcément les droits humains.
Ce que je comprends pas, Pierre Brunet, ce que je comprends pas en tant que juriste, c'est que la rivière soit sujet de protection. Mais il y en a dans une république, il y a énormément de biens communs qui sont l'objet de protection sans pour autant avoir la personnalité juridique. Qu'est-ce qu'apporte, outre les aspects symboliques sur lesquels on reviendra, qu'est-ce qu'apporte cette attribution d'une personnalité juridique?
C'est une excellente question, évidemment. Et c'est là où on touche à toute la difficulté du mimétisme juridique qui est un peu en train de se mettre en place et qui peut appeler certaines réserves. Mais d'ailleurs, je n'ai pas répondu à votre question qui portait non pas tellement sur les droits et les devoirs, mais sur la représentation de la nature.
Oui, c'est ça, qui est capital. Donc,
je reviens une seconde. Évidemment, il faut des humains pour faire parler, pour faire parler l'entité naturelle. Ces humains, il y a de multiples systèmes possibles. On peut soit envisager un parlement, on peut envisager les gardiens, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande, qui a été reproduit en Inde ou bien encore en Colombie. Ces gardiens peuvent eux-mêmes être soit deux seulement, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande, sauf erreur, soit être beaucoup plus nombreux, comme c'est le cas pour la Trato en Colombie. Il y a en fait des individus qui, effectivement, parler pour le fleuve ne sera pas la même chose, évidemment, que parler pour un individu. Mais le fleuve, c'est là où je faisais le lien avec les droits du fleuve. C'est-à-dire le fleuve a comme droit le droit d'être maintenu dans son état, restauré en cas de dommage, en cas de pollution, d'être, porté portée vers une restauration et une amélioration. Ce sont pas, l'idée, c'est d'arriver à faire ce travail intellectuel qui est tout à fait ébouriffant pour nous et très irritant même parfois, qui est d'arriver à essayer de penser ce qui est son bien-être en se projetant dans l'avenir.
Sacha Bourgeois Gironde.
Oui, sur ce point-là.
Oui, sur ce point-là.
Sur ce point-là, je voudrais ajouter un élément sur ce qu'il a dit, avec lequel j'adhère totalement. Il y a un effet de cadrage intéressant également du point de vue de l'économie comportementale précisément. Alors qu'il y a cette fameuse tragédie des communs dont on a tellement parlé.
Oui. C'est-à-dire que si on les laisse à eux-mêmes, ils sont voués à dépérir. S'ils restent communs,
c'est-à-dire ils sont voués à dépérir. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé, après cet article fondateur de Hardin en 68, si je me souviens bien, que si on laissait l'accès libre à un bien commun, sans régime de propriété privée, par exemple, il y aurait une déperdition, une destruction.
Et donc un appauvrissement.
Un appauvrissement
de la ressource. Il y aurait une surexploitation de ces droits.
Alors c'est connu, Elinor Ostrom, qui a reçu le prix Nobel, a montré que des régimes de propriété divers pouvaient au contraire, différents droits accordés à différentes entités. Mais ce que je voudrais dire, c'est que accorder la personnalité, on pourrait se poser la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est en quoi c'est efficace du point de vue de la protection.
Oui, je vois très bien la dimension symbolique sur laquelle vous avez beaucoup insisté.
Mais aussi la dimension d'efficacité. Alors, mon avis, il y a deux réponses à ça, du point de vue économique, en fait, de l'efficacité au sens de la protection et du maintien de la ressource. Donc un aspect économique ici, qui est à prendre en compte. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que ça fait ce que je disais tout à l'heure, un effet de cadrage. C'est-à-dire que maintenant, si on pense qu'on a affaire à une personne, si on croit cela, et certaines personnes le croient, visiblement, on va changer notre rapport. On n'aura plus affaire à un bien qu'on exploitera, mais peut-être en partie, on aura cette conception dans l'esprit d'un rapport interpersonnel. C'est-à-dire que peut-être des formes d'altruisme vis-à-vis du bien en question vont peut-être pouvoir émerger ou du moins exister maintenant légalement.
On va démarchandiser
On va démarchandiser et on va personnifier. Donc on va un peu peut-être résoudre la tragédie des communs par cet aspect de la personnalisation et de la relation interpersonnelle. Ça, c'est un aspect qui n'est pas seulement symbolique, c'est un aspect symbolique très fort parce qu'il vient d'une culture, évidemment, mais c'est aussi un aspect pratique.
Alors, Pierre Brunet,
Je voudrais ajouter un point parce que c'est toujours assez difficile d'arriver à mobiliser tous les arguments en faveur et il y en a tellement qui sont en défaveur que...
J'ai quelques arguments en défaveur que je voudrais présenter.
Il y a une chose qui est quand même, qui mérite d'être soulignée et qui est évoquée par un autre personnage qu'il faut absolument convoquer, qui est Christopher Stone dans son magnifique article de 72. Christopher Stone faisait remarquer très bien que, évidemment, permettre à des entités naturelles, une forêt, une rivière, d'agir en justice par le biais d'humains, après tout, on peut très bien, ça peut n'avoir aucune efficacité. Et il y a des entités, comme vous le disiez très bien, des entités publiques qui le font. Sauf que, très souvent, les organismes publics qui le font ne le font pas sans se détacher de l'intérêt de l'État ou des autorités publiques qui mobilisent des politiques publiques qui ne sont pas du tout en harmonie avec la rivière. Et l'idée, c'est si on veut arriver à une sorte d'équilibre entre les humains et les non-humains, qui est l'enjeu écocentrique de cette affaire, alors il est probable, il est peut-être préférable de ne pas passer systématiquement par les autorités publiques ou même par des associations qui seraient spécialisées dans la défense, mais qui pourraient être financées par ces autorités publiques.
Deux objections. Première objection, parce que ce que vous dites sur la rivière me fait penser à la notion d'humanité, de crime contre l'humanité, et qui existe juridiquement, alors que l'humanité n'a pas d'existence juridiquement. Et je pense à cette fameuse phrase de Proudhon, je crois, qui dit « humanité veut tromper ». C'est-à-dire, la politique reprend ses droits, et quand on parle pour quelqu'un d'autre, et encore plus si c'est pour une entité sacrée, c'est un peu de ça qu'il s'agit, eh bien, on fait parler la rivière, mais on fait parler la rivière pour des intérêts. On va imaginer tout de suite les conflits, et ce qu'on a vu d'ailleurs, et ce que montre d'ailleurs l'analyse des victimes des crimes contre l'humanité, qui réintroduisent du conflit comme dans toute réalité humaine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'imposture, Sacha Bourgeois-Gironde, un risque d'imposture ou de prétendre parler pour la rivière, mais de parler pour soi?
C'est très difficile de répondre à cette question. Je pense que tout se joue dans cette idée maori, pour le coup, et c'est pour ça que ça reste un cas quand même exemplaire, et même s'il est généralisable à d'autres contextes, ça reste un cas intéressant à analyser pour lui-même, qui n'est pas forcément complètement universalisable, parce qu'il repose au centre du texte de loi et au centre de ce qui a animé cette législation, cet acte législatif, il y a cette devise « Je suis la rivière et la rivière est moi » qui est portée depuis les origines par les Maoris. Donc « Je suis la rivière et la rivière est moi ». Il y a cet acte d'intersubstantiation, de transsubstantiation, pour pas parler de transspécisme, c'est au-delà du transspécisme, là pour le coup.
Transnaturalisme, vous dites.
Transnaturalisme, oui, c'est ça, ouais. Effectivement, qui fait qu'il y a une identification extrêmement profonde, culturelle, certes, hérité entre la rivière et ses riverains.
Je continue.
Mais c'est pas le cas partout.
C'est pas le cas partout. Moi, je pense au fameux Deus sive natura de Spinoza. C'est-à-dire que toute l'histoire de notre droit, c'est de se détacher de la nature, c'est de se détacher de Dieu, c'est-à-dire de construire un homme qui va être libre et responsable et qui sera sujet de droit et de devoir. C'est-à-dire c'est une construction de l'indépendance. Or là, il y a une revendication du lien, j'allais dire quasi d'une immersion, pour continuer dans la métaphore aquatique.
Ce que je voudrais dire sur ce point extrêmement important, effectivement, Antoine Garapon, c'est que je ne pense pas que à travers cet acte de loi, du moins c'est pas mon interprétation, l'homme se rapproche de la nature, il s'en rapproche si on veut à une certaine mesure. Je pense au contraire qu'on met la nature, en tant que nature, dans des relations humaines, de manière différente dont elle était placée jusque-là. C'est très différent.
C'est ça. Pierre Brunet.
Oui, je crois que d'abord vous soulevez une question qui est en fait la question politique de l'affaire.
Oui.
Et c'est ce qui fait que la représentation des entités naturelles ne peut pas être penser sur le modèle d'une représentation purement du droit privé.
C'est ça, parce que la politique, on l'a pas choisie, elle s'impose à nous.
Elle s'impose à nous, et elle s'impose d'autant plus, par exemple, dans le cas du Rio Atrato en Colombie, qu'il y a eu, une fois la décision de la Cour constitutionnelle rendue, la première chose, si je puis dire, la première réclamation des collectivités, des communautés locales du fleuve, c'était précisément d'avoir des représentants en plus grand nombre que ceux fixés par la Cour. Parce qu'il y a évidemment un enjeu politique, et incontestablement, se posera à travers la constitution de ce corps de gardien du fleuve une question politique qui relève, à mon sens, de la représentation politique. Alors non pas la représentation parlementaire telle qu'on la pense évidemment, mais dans un cadre qui est en réalité de choix politique.
Je pense à une deuxième objection, et là je raisonne en juriste, peut-être même en juge d'ailleurs, c'est-à-dire que les entités, les personnes morales, les personnes physiques, on leur attribue des droits dont elles doivent rendre compte, dont elles doivent répondre. Si on imagine que ce fleuve fasse des dégâts, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, dans la vallée de la Roya à Nice, on a vu des fleuves, des rivières impétueuses, peut-être monstrueuses. Bon, alors, Sacha Bourgeois-Gironde, imaginons que ce fleuve Whanganui sorte de son lit, tout d'un coup devienne furieux. Dans les phénomènes climatiques que nous connaissons, c'est pas totalement illusoire. Est-ce qu'il serait assujetti à une responsabilité quelconque? Et comment pourrait-il en répondre?
C'est pas précisé dans le texte de loi. Je l'ai pas trouvé. J'ai interrogé sur cette question qui vient à l'esprit.
Qui vient à l'esprit.
Tout à l'heure, Pierre Brunet a dit qu'on pouvait dissocier, quand on attribue la personnalité juridique, les questions des devoirs et les questions des droits. Là, on a des droits subjectifs qui sont posés sur la rivière, des devoirs. C'est pas clair.
Ben oui.
Maintenant, s'il y a des dégâts qui sont commis parce qu'il y a une mauvaise gestion du fleuve lui-même ou d'activités liées au fleuve, j'imagine qu'on peut continuer à porter plainte, mais dans un cas standard, de manière classique.
Cela dit, pour la rivière Whanganui, il y a un fonds qui est constitué. On peut parfaitement concevoir, compte tenu de ce que le système est extrêmement pensé, articulé et précis, puisque on n'a pas pu rentrer dans le détail du système adopté en Nouvelle-Zélande, parfaitement bien expliqué par Sacha Bourgeois-Gironde dans son ouvrage, mais c'est un système complexe. On n'a pas créé seulement la personnification du fleuve. On a créé des entités juridiques auxquelles on a reconnu la personnalité et qui sont censées se coordonner. Et il y a un board of management, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. 17 membres.
17 membres qui sont pas représentatifs uniquement des communautés maoris, mais qui en fait
sont représentatifs en réalité des activités autour de la rivière, voilà. Des secteurs d'activité.
Et donc on a, c'est pour ça que je parlais de management de la rivière, parce que on peut parfaitement à ce moment-là concevoir que en cas de débordement du fleuve, eh bien, effectivement, il y a une responsabilité de ce board of management, lequel est la rivière, alors, juridiquement parlant.
Je voudrais introduire une autre objection. La question question extrême, mais c'est comme ça que ça donne le droit. C'est un peu la question du sérieux au sens où l'entendait Heidegger, c'est-à-dire la question de la mort. Si un jour il faut arbitrer, faut choisir entre porter atteinte à la rivière, par exemple, en mettant du béton quelque part pour la borner, de façon à protéger des vies humaines. Si, alors, on peut, dans un cas très hypothétique, Sacha Bourgeois-Gironde, il y avait un arbitrage à faire entre la vie d'un homme ou la vie de plusieurs hommes et l'intégrité morale, naturelle de la rivière. Une question extrême, c'est-à-dire que, et là, comment arbitrer? Est-ce qu'on pourrait imaginer dans l'esprit de vos interlocuteurs et dans ce véritable événement philosophique qu'on arbitre en faveur de la nature?
Oui, je pense qu'on peut l'imaginer, même si ça paraît extrêmement délicat et même si c'est pas ma réponse la plus évidente à formuler. J'aurais tendance à vouloir dire le contraire, mais puisque vous parlez d'imaginer un cas, oui, je pense qu'on peut l'imaginer. Et je pense que c'est la question des intérêts en fait qui sont posés, pas seulement des intérêts humains précisément. À partir du moment où ce ne sont pas uniquement des intérêts humains, parce que c'est exactement ça le problème du texte de loi, c'est qu'on prend en compte les intérêts de la rivière elle-même. Donc à partir du moment où on prend en compte sérieusement juridiquement les intérêts de la rivière et son bien-être, la question se pose effectivement et elle n'est pas tranchée a priori uniquement en faveur des humains.
Pierre Brunet. Bon, ce sont des dilemmes moraux qu'on connaît aussi pour les humains. Quand il s'agit de savoir si on doit sacrifier un enfant ou sa mère, c'est quand même une question qui soulève un dilemme moral sur lequel nous n'avons pas de réponse a priori. Par ailleurs...
C'est la question qui fait côtoyer le droit du sacrifice.
Oui.
Et à mon avis, c'est là la question de la vérité aussi des institutions. C'est dans le jugement de Salomon, pour prendre une...
Absolument, et j'allais y faire référence, effectivement. Ben oui, on a envie de poser la question, qu'est-ce qui compte le plus pour vous, et de faire un jugement de Salomon ce cas-là. C'est pour ça que la question des intérêts est centrale.
Tout à fait.
Mais cette question ne doit surtout pas masquer le fait que ce sera systématiquement la rivière qui gagnera. En Équateur, où on a consacré les droits de la nature dans la Constitution par 3 ou 4 articles, la Cour constitutionnelle a progressivement, avec d'autres cours d'ailleurs, mis en œuvre ces droits de la nature et à plusieurs reprises préféré accorder une solution en faveur des humains plutôt que des éléments naturels. Encore une fois, il s'agit pas, et c'est ce qui perce un tout petit peu derrière la question, c'est la question de savoir si on va mettre sur le même plan les non-humains et les humains, et on rencontre immédiatement l'objection de beaucoup de juristes, y compris les plus artificialistes que l'on a pu connaître, je pense à Yann Thomas, qui imagine qu'il y a une forme de nivellement et d'égalitarisme.
Est-ce que ce n'est pas... Oui, mais Pierre Brunet, c'est précisément la condition de la justice. J'oublie le droit, mais la condition de la justice, et je pense à, pour citer des gens comme Kojève sur la phénoménologie du droit, c'est, eh bien, il y a A et B qui doivent être mis sur un même plan. Et d'ailleurs, elle me précise Kojève, je dois pouvoir les intervertir pour pouvoir statuer véritablement. Et c'est donc la question que pose la personnalité juridique.
Je comprends très bien, mais je ne crois pas que pour autant cette généralité sur sur A et B soit si pertinente que ça. Il y a des tas de cas dans lesquels ce type de dilemme arrive indépendamment d'une personnalité.
S'ils ont le statut de finalité, oui. S'ils ont le statut de personne juridique, c'est plus difficile.
Oui.
France Culture,
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Et Esprit de justice, toujours avec Sacha Bourgeois-Gironde et Pierre Brunet. Pierre Brunet qui a choisi de nous faire écouter cette musique extrêmement aquatique.
Oui, c'est magnifique. C'est un morceau de Gheorghe Ligeti qui date des années 50, qui est joué par Pierre-Laurent Aymard et qui est tiré de ses œuvres pour piano. Et c'est tiré d'une série qui s'appelle Musica Ricercata. Et c'est un magnifique morceau et qu'on entend très peu à la radio, je crois.
Eh bien voilà, voilà une chose qui est réparée, si je puis m'exprimer ainsi, pour notre sujet de ce soir, qui est la rivière Wanganui. Et cet véritable événement philosophique, comme vous le dites, Sacha Bourgeois-Gironde, à juste titre, parce que on a enjambé la barrière des espèces. On reconnaît un statut qui était jusqu'ici réservé à des humains, à des hommes. On l'attribue à un élément de la nature et peut-être plus encore un élément de la culture qui fait que il y a eu l'intégration par le droit néo-zélandais, peut-être en raison d'ailleurs de sa nature d'un droit de common law, il y a l'intégration de plusieurs rapports à la nature dans un même système juridique.
Oui, il y a pas de différence fondamentale pour le coup entre nature et culture dans ce contexte-là. Et il n'y a pas non plus un rapport à la nature qui serait animiste, par exemple, et que le droit viendrait entériner. C'est pas de l'animisme à mon sens, c'est autre chose, qui est à nouveau quelque chose de très particulier. C'est pour ça que les limites de la généralisation, en dépit du mouvement de personnalisation des fleuves, il faut quand même se pencher sur ce cas précis. C'est autre chose, c'est ce que les Maoris appellent une généalogie. En fait, ils se tiennent dans un rapport généalogique.
Ce sont leurs ancêtres.
Voilà, ce sont leurs ancêtres, ils protègent leurs ancêtres, ils sont dans un lien d'héritage. Par rapport à la rivière.
On pourrait même dire, d'ailleurs, c'est l'équivalent du monde pour eux. C'est-à-dire, c'est ce qui existait avant eux et ce qui persistera probablement.
Alors ça, c'est
après.
Une question que je me suis posée. C'est pas clair que la rivière, au sens où elle est conçue par eux, existait avant eux. En fait, c'est pas clair de savoir qui est le père de qui dans cette affaire.
C'est ça.
En tout cas, la conception, conception vient avec eux, vient dans les années 1200, quand ils arrivent en Nouvelle-Zélande.
C'est ça. Mais ça veut dire quand même que c'est la consécration. On pourrait dire, alors là aussi, l'un et l'autre, vous avez discuté cette idée en l'écartant, mais c'est une idée qu'on doit à David Anoussami, autre personne extrêmement importante du chant, et qui lui parle en Inde des idoles, Pierre Brunet, des idoles. Des idoles, ce sont les dieux avec lesquels on commerce, mais qui ne sont pas des personnes humaines.
Alors, bon, là, il faut aussi tenir compte du fait que les anthropologues ont travaillé sur cette question, et je ne me sens pas assez qualifié pour en parler très longtemps. Mais le fait est que, d'abord, le terme idole est un terme qui n'était pas le terme utilisé par les Indiens.
C'est David Anoussami, c'est.
Non, en fait, c'est le produit de la colonisation anglaise qui a fait que quand les Anglais se sont trouvés face aux Indiens qui accordaient qui reconnaissaient une personnalité à des divinités, on les ont qualifiés d'idoles. Donc déjà, le terme est lui-même discutable et un peu ambigu. Mais effectivement, disons, le droit indien et la Cour constitutionnelle indienne a, à plusieurs reprises, reconnu qu'un livre saint pouvait être considéré, pouvait se voir accorder la personnalité juridique. Et c'est effectivement un cas dont se servent les juges de l'Uttarakhand pour accorder la personnalité juridique au Gange et à la Yamuna, pour expliquer que finalement c'est très banal, il suffit de répondre aux besoins de la société et on le fait à travers cela.
Sacha Bourgeois-Gironde.
Alors oui, j'ai interrogé David Anoussami sur ce cas. Et on a correspondu sur ce cas au moment de l'écriture du livre. Et pour une raison qui m'a vraiment surpris, il refuse de considérer que le cas de personnalisation juridique des rivières en Inde, du Gange et de Yanuma, soit à mettre sur le même plan que ce qui s'est passé avec les idoles.
Mais voilà. Mais alors je crois que il y a le cas indien, il est aussi vous le soulignez Pierre Brunet, le problème c'est que l'Inde c'est une fédération indienne qui regroupe des hindous, des chrétiens, des musulmans, et Dieu sait si la cohabitation est parfois difficile, et donc il est difficile de reconnaître, d'adopter le point de vue hindou sur le Gange ou sur la Yamuna, alors qu'il y a d'autres personnes qui qui lui appartiennent. Je préfère ainsi, c'est pas très juridique, mais et qui ne sont pas hindous et qui ne participent pas de ce même rapport culturel quasi mystique avec le fleuve.
C'est exactement la raison pour laquelle le mimétisme juridique est parfois très gênant. Et c'est la raison pour laquelle je suis personnellement
un petit peu réservé
à l'égard de l'empressement des juges indiens, d'abord pas des juges indiens, mais de ces deux juges de l'Uttarakhand, dont l'un d'ailleurs a ensuite été muté de l'Uttarakhand dans un autre état.
Il parle d'artificialisme, de personnes artificielles. Oui, je trouve ça très intéressant.
Oui, mais il parle en réalité, il les qualifie de très nombreuses façons, qui sont presque contradictoires. Mmh. Parce que ce sont à la fois des personnes artificielles, des personnes vivantes, des personnes sacrées, etc. Au point qu'on ne sait plus très bien, en fait, ce qu'ils veulent en dire. Et il faut bien reconnaître que les décisions sont quand même beaucoup moins rigoureuses d'un point de vue juridique que le système mis en place par la Nouvelle-Zélande à travers la loi ou par la décision de la Cour constitutionnelle colombienne qui, pour le coup, si vous voulez, a une argumentation que l'on peut trouver peut-être fantasque ou peu juridique, mais qui en réalité développe une argumentation très solide, très rigoureuse pour évacuer, en tout cas envisager, un très grand nombre de questions qui ne sont absolument pas, à mon sens, résolues par les juges indiens, lesquelles sont, à mon titre personnel...
Vous leur mettez pas une bonne note, professeur Brunet.
Non, je trouve qu'il y a incontestablement un agenda politique dans ces décisions. Par ailleurs, comme le dit très bien Sacha Bourgeois-Gironde, la Cour constitutionnelle a été saisie, elle a suspendu la décision parce que l'État de l'Uttarakhand a d'ailleurs estimé que s'il y avait des devoirs pour le Gange et que eux-mêmes n'étaient absolument pas en mesure de réparer les dommages causés par le Gange, il fallait envisager une suspension de ce système.
Alors on voit dans notre débat la difficulté et les difficultés des mots, du langage et qui est d'ailleurs le pluralisme juridique. Je crois que tout le monde aura compris grandit dans nos États, dans nos pays, et c'est une bonne chose. Mais ce pluralisme a des frontières, Sacha Bourgeois-Gironde, sur lesquelles vous insistez et que vous avez rencontrées auprès de vos interlocuteurs.
Oui, je les ai rencontrés à plus d'un titre, de la part des Pakeha, c'est-à-dire des Kiwis, des Blancs néo-zélandais, d'ascendance européenne, et de la part des Maoris.
Des deux côtés,
parce que effectivement, par exemple, si on prend le ministre qui était chargé des affaires maoris et qui a vraiment contribué à faire voter cette loi, qui est du Parti National, donc un parti qui a priori n'était pas très favorable, l'électorat n'était pas très favorable à cet acte de loi au départ, parce que ça concédait trop au postcolonialisme, à des questions comme ça, très politiques, hein, c'est extrêmement politique comme débat, évidemment. Alors, dans ce cas-là, l'interprétation qu'on donne de ce côté-là, de ce côté de ce ministre, c'est une fiction juridique. Il n'y a pas à en dire plus. Alors, du côté des Maoris, je rencontre un autre type de résistance, mais je rencontre aussi une résistance. Bon, j'interroge une anthropologue des rivières qui refuse presque de me répondre au départ, qui refuse de répondre à mes questions, qui n'est pas contente du tout que j'interroge sur le sujet de la Wanganui. Alors, pour deux raisons.
Parce qu'elle ne veut pas que vous reformuliez, c'est comme ça que j'ai compris.
En fait, si la loi.
Dans vos mots, vous.
C'est ça. Et même si la loi disait à peu près ce qu'elle pense au fond de cette rivière, le fait que la loi le dise, c'est comme si la loi lui disait d'une certaine manière, tu as raison de penser ce que tu penses. Mm-hmm. Ce qui est un acte qu'elle n'accepte pas, ce qu'on peut comprendre.
C'est ça.
Est-ce qu'elle a besoin d'un acte de loi qui lui dise que penser de sa propre rivière?
Alors, notre émission approche de son terme. Malheureusement, on voit que le débat est passionnant parce que il est passionnant parce que, au-delà de la personne juridique, il introduit un nouveau, une nouvelle conception du droit et d'un rapport au monde qui est différent. Et la question que j'aurais vous poser à l'un et l'autre, qui est plus une question sur nous, dans le fond, est-ce que c'est pas plutôt la pauvreté juridique grandissante dans nos démocraties qui réduit le droit à des choses, à des biens d'échange, à des valeurs d'échange et qui a laissé partir cette question essentielle du rapport au monde. Et j'ai devant les yeux le livre d'Armut Rosa, je crois que c'est son dernier, Rendre le monde indisponible, où on voit bien que dans sa perspective à lui, qui est plutôt un héritier de l'école de Francfort, il pose la même question, Pierre Brunet.
Ben, c'est une question qui effectivement est le mouvement des communs qui est non pas coïncident avec ce dont nous parlons, hein, qui est antérieur, comme un très grand nombre de mouvements sociaux, je crois, traduit en effet le fait qu'il y a une contestation du capitalisme, de la commodification, comme on dit, de la marchandisation d'un très grand nombre de biens. Il y a aussi la prise de conscience, je crois. Il faut remettre ça aussi dans le contexte. Ça fait depuis les années 70 que l'on a du mal à prendre conscience de la finitude de notre monde, oui, de la limitation de nos ressources, du fait que nous vivons une période absolument schizophrénique. D'un côté, nous multiplions les traités de libre-échange et de l'autre côté, nous ne cessons de comprendre que nous jetons et nous avons des quantités de déchets et de produits inutiles. Ça produit quand même, je crois, en effet, on commence enfin à prendre un peu la mesure de notre démesure.
Alors, Sacha Bourgeois-Gironde, le mot de la fin, ce que ça dit de nous, cette affaire-là ?
De nous, ça nous dit qu'on a encore des pouvoirs d'imagination, malgré tout, et que le droit peut être un de ces leviers de l'imagination. Je pense qu'il faut reprendre la formule de James Boyd White sur l'imagination légale. Lui voyait ses sources dans la littérature. Moi, je pense que le travail que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'était certes une première approche du droit, enfin une sorte de première approche du droit de ma part, mais aussi une construction poétique du monde. C'est-à-dire, en fait, le droit peut être extrêmement poétique au sens propre du terme poétique, c'est-à-dire qu'il peut construire des nouveaux objets dans le monde, ou il peut rendre les objets qui sont dans le monde vus différemment, changer les rapports à la nature en particulier. C'est ça que je vois dans cet acte de droit. Donc il y a une part d'imagination juridique et poétique qui est conjointe en fait dans ce texte-là. Je pense pas que le droit soit simplement quelque chose qui étouffe la création ou étouffe la liberté, comme par exemple pouvait le penser, et pourtant je respecte éminemment cet homme, mort récemment, Bernard Edelman.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est contenu dans votre titre « Être la rivière ». Alors du coup, Pierre Brunet, vous vous retrouvez dans cette définition du droit ?
Écoutez, oui, je crois, en fait. Je ne dis pas que j'en suis absolument convaincu, mais oui, je crois, de plus en plus.
Eh bien, merci beaucoup. Merci, Sacha Bourgeois-Gironde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Être la rivière », c'est déjà tout un programme. Merci, Pierre Brunet. Esprit de justice, Sacha Bourgeois-Gironde, Pierre Brunet, Bruno Mourlan, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h pour une nouvelle édition d'Esprit de justice. Bonne soirée.